C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, Émile Zola, 1840-1902, écrivain, français, politique, gauche, agnostique, hétérosexuel, probablement, possiblement assassiné pour des raisons politiques. Œuvre, Son Excellence Eugène Rougon, roman, 1876, 6e sur 20 de la série des Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. On retrouve aussi Eugène Rougon dans La Curée, L'Argent et le Docteur Pascal, personnage Eugène Rougon. Il est couramment admis en France que Balzac est un immense écrivain et Zola un médiocre. Faisons un peu de littérature comparée. Qui a écrit des stupidités comme « À propos des Juifs », quand ils ne sont pas d'une laideur repoussante, ils présentent le magnifique caractère des figures arméniennes. Qui a écrit des vulgarités comme « Elle retomba sur ses genoux, elle baisa les souliers du prêtre, elle y fondit en larmes et les mouilla, elle étreignit ses jambes et s'y colla ». Qui a écrit des comparaisons fausses et de mauvais goût comme « Ses mains d'une incomparable noblesse étaient molles, transparentes et blanches » comme les mains d'une femme en couche de son second enfant, cet épais Zola, bien sûr, ce crétin zozotant, cet antimilitariste borné, ce gilet jaune de la littérature, et bien c'est Balzac, dans Splendeur et misère des courtisanes. Je n'aime pas les légendes, l'une d'elles veut que Zola soit épais et balourd. Or chez lui, il y a des rapidités, des finesses et des intelligences que, habituellement, on lui nie. Voyez dans Son Excellence Eugène Rougon cette très suggestive ellipse. Cependant, l'impératrice semblait prise tout à coup d'une vive amitié pour Clorinde. Dans une explication, nous comprenons que l'impératrice, jalouse de cette Clorinde qui roucoulait auprès de Napoléon III, a deviné que le ministre Marcy a couché avec elle et qu'elle est soulagée. Zola et rapidité sont tout aussi compatibles que Zola et ellipse, dans le même livre à propos d'un autre personnage. Le chef de bureau avait voulu une jeune fille de province parce qu'il tenait à l'honnêteté. Adèle, blonde, petite, adorable, en était à son troisième amant au bout de 4 ans de mariage. Zola est un écrivain littérairement calomnié. Son Excellence Eugène Rougon est un très bon roman qui, comme Gatsby le Magnifique, mais oui, est fait non pas d'une narration liée, mais d'une superposition de scènes. De scènes fortes, pareilles à de grands panneaux se dépliant les uns après les autres jusqu'à la conclusion, laquelle d'ailleurs n'en est pas tout à fait une. Son Excellence Eugène Rougon n'est pas un roman d'histoire, mais un roman de personnages. Évidemment, à ces personnages, il arrive des histoires, mais elles ne leur sont pas imposées, elles découlent de leur personnalité qui se heurte ou non et se mêle ou non à d'autres personnalités, à des appuis ou à des résistances, comme dans la vie. Qui est Eugène Rougon? Pour en parler, je reçois François-Marie Mourad, professeur au lycée Montaigne de Bordeaux, éditeur de plusieurs livres de Zola, dans la collection GF chez Flammarion. François-Marie Mourad, à quoi ressemble cet Eugène Rougon qui a 46 ans au début du roman?
Alors, ce personnage que ses amis appellent le gros homme, plutôt vers la fin du roman, au moment de la disgrâce, est d'abord présenté comme le grand homme. Et le grand homme à la fois pour ses fonctions politiques, mais également pour un physique démesuré, un physique de colosse. C'est un personnage grand et solide, avec de gros membres. Et ce portrait réitéré à plusieurs reprises, voici ses composantes. Le front carré, les larges épaules, une large poitrine, parfois Zola utilise le terme de poitrail. Une chevelure bien plantée, d'épaisses paupières toujours à demi baissées, de grosses mains. En fait, une sorte de force qui transfigure, hein, une vulgarité rude, mais que transfigurée par éclair, lit-on, la beauté de la force. Donc on a un portrait tout à fait saisissant, qui cherche à accentuer cette impression de force massive. Et quand les personnels politiques est confronté à Rougon, eh bien, on sent une sorte d'émotion collective, une impression, presque une angoisse qui se diffuse dans le groupe. Et c'est un buste, le plus souvent. De temps en temps, on le voit se déplacer, mais assez peu. Finalement, il est un buste d'impérator. Il ne faut pas oublier que dans le roman, il est le vice-empereur, en quelque sorte.
Comment il se situe dans la famille Rougon?
Alors c'est un des fils de Pierre et de Félicité. Le premier roman, qui s'intitule La fortune des Rougon, raconte l'histoire de cette famille à Plassans, qui est la Provence, et c'est la province superlative, celle qui est la plus éloignée, c'est celle-ci, celle que connaît très bien Zola, puisqu'il est évidemment, il a vécu longtemps, il a vécu toute son enfance à Aix-en-Provence, et donc on a avec Plassans un doublon fictionnel d'Aix-en-Provence. Alors dans la famille, il y a famille d'origine rurale, eh bien il y a le père Pierre, auquel ressemble effectivement son fils Eugène, qui est l'aîné, Eugène, le bien-né, si on suit l'étymologie de ce prénom, qui a pour frère Aristide et Pascal, donc ils sont trois fils, pour mère Félicité, qui représente l'intelligence dans le couple des parents.
Il y a deux sœurs aussi.
Et puis deux sœurs, effectivement, Sidonie et Marthe. Donc on a une famille nombreuse, Félicité qui est une toute petite femme, qui ressemble un peu à une musaraigne, qui est, Zola utilise très souvent des comparaisons animales. Cette origine se retrouve malgré tout chez le fils, puisqu'il semblerait, comme le dit souvent Zola, que Eugène a hérité de l'intelligence de sa mère et du caractère massif de son père.
Alors il végète pendant longtemps en quelque sorte, jusqu'à je crois l'âge de 38 ans, il est avocat en province.
Voilà, alors c'est une famille représentative, on va dire, de la classe moyenne qui suit un progrès, qui cherche à s'élever dans la société. Souvent, les romans de Zola sont considérés comme des romans très satiriques, mais quoi qu'il en soit, d'un point de vue social ou sociologique, on a un long parcours de la famille Rougon au début, d'une sorte d'émancipation progressive de la classe moyenne qui mise sur le travail et qui mise aussi sur l'éducation des enfants. Donc les enfants sont envoyés au lycée et ils font de bonnes études. Et Eugène fait des études de droit et devient avocat, effectivement, mais aux alentours de 1848, il végète. Il végète dans cette province et on sent que, évidemment, son destin est encore à venir puisque, comme il est dit dans son excellent Eugène Rougon, il sera le plus grand des Rougons.
Mais en même temps, il fait le bon pari au moment du coup d'État et il pousse sa famille vers le bonapartisme.
Voilà, il devient le conseiller de la famille, le conseiller occulte, il est un agent actif du coup d'État, il est bien indiqué dans le roman Son Excellence Eugène Rougon qu'il a il a même pris d'assaut je sais plus quelle institution. Enfin, il est quand même effectivement un des premiers soutiens de Louis-Napoléon Bonaparte, et il va donner des conseils depuis, peut-être à partir très vite pour Paris, où il va suivre toutes les péripéties du début du Second Empire. Il va donner de précieux conseils à son père et à sa mère pour effectivement leur permettre d'assurer leur propre fortune sur place.
Et d'ailleurs, avant Son Excellence Eugène Rougon, dont nous parlons particulièrement aujourd'hui, on le voit apparaître, je le signalais, dans La Curée, dans L'Argent, dites-moi rapidement, voilà, où il n'est pas le personnage principal.
Non, il n'est pas le personnage principal, c'est quand même un personnage reparaissant sur le principe balzacien, c'est un personnage qui revient quand même de temps en temps, qui est plutôt déjà assez présent dans La Fortune des Rougon, comme sorte d'agent secret, de conseiller occulte, et puis on le voit triompher dans Son Excellence Eugène Rougon, mais il était déjà présent dans La Curée, puisqu'il est ministre, et il soutient évidemment. Alors, l'attitude envers son frère Aristide, qui va devenir le célèbre Saccard, le financier.
Parce qu'il lui fait changer de nom, en fait.
Voilà, alors il lui fait changer de nom pour ne pas se compromettre, et puis parce que ce nom est aussi une sorte de nom de guerre que Saccard va prendre. Il veut aussi que le lien ne soit pas fait entre eux, parce que Saccard, qui incarne un peu les ambitions plus vile. Hein. La caractéristique d'Eugène, c'est quand même c'est l'intelligence. C'est-à-dire que c'est un personnage qui n'a pas d'autre vice que cette idolâtrie de l'intelligence qui le caractérise, et surtout cet amour de la force. Il est vraiment...
On y
reviendra. Bon, il est... alors Saccard, lui, en revanche, Saccard va devenir l'escroc dans les grandes largeurs, c'est-à-dire le grand financier, celui qui met à profit les grands travaux de la ville de Paris, du préfet démolisseur que sera Haussmann.
Haussmann. Et donc son frère le pousse à s'exiler, et donc donc nous arrivons à
dans l'argent, voilà.
Nous dans l'argent et nous arrivons à Son Excellence Eugène Rougon où au début du roman, dans une scène d'ailleurs très frappante, on le voit président du Conseil d'État et sénateur du Second Empire.
Voilà, et il devient surtout le ministre de la répression après l'attentat d'Orsini. Il devient ministre de l'Intérieur. Et c'est lui qui va, en quelque sorte, représenter qui va représenter l'empire autoritaire.
Il est sans pitié, d'ailleurs. Il fait arrêter un notaire, alors qu'il était plus ou moins lié à lui, lequel notaire en meurt. Il a une attaque, nous dit Zola.
Oui, c'est une scène assez intéressante parce que, bon, Eugène Rougon n'est pas non plus... ce qu'il caractérise, c'est cet autoritarisme, cet amour de la force, ce goût du pouvoir pour le pouvoir.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le dit ministre, donc Eugène Rougon, a un vocabulaire très mesuré et, en quelque sorte, inversement proportionnel à sa violence. C'est-à-dire qu'il passe son temps à dire... Un mot qu'il emploie souvent, c'est « bête ». C'est parfois pour se vanter, comme quand il dit « je suis d'une fidélité bête ». Mais le plus souvent, on a l'impression que c'est comme pour retenir ses mots, comme un boxeur retient ses coups. Et c'est peut-être aussi une forme de menace. Enfin, je trouve qu'il est assez... qu'il a un vocabulaire plein d'euphémisme.
C'est vrai qu'il utilise souvent cet adjectif. Et on lit qu'il avait l'éloquence banale, incorrecte, hérissée de questions de droit... une éloquence qui renvoie à la phraséologie aussi des politiciens, truffée de lieux communs. En fait, Zola dit, il tonnait, il brandissait des mots bêtes. Et sa seule supériorité d'orateur, ce pourquoi il veut être admiré, c'est pour cette présence, pour cette incarnation de la force.
Alors, il y a une chose, c'est que Eugène Rougon est entouré et très caractéristique d'une bande de parasites qui sont autour de lui, qui sont des espèces de courtisans plus ou moins incapables et dont Zola nous dit de manière très frappante qu'en réalité sa puissance est liée à leur incapacité et au fond à leur parasitisme. C'est-à-dire que plus Eugène Rougon est capable de leur délivrer des faveurs, plus cela prouve sa puissance et ça montre de manière frappante combien un politicien peut être lié pour sa propre puissance à des gens minable, si je peux employer ce mot.
C'est tout à fait ça. C'est peut-être une autre actualité du roman de Zola. C'est-à-dire qu'en fait, il y a autour de Rougon une coterie. Il se crée d'ailleurs entre eux et lui une sorte de relation intime. Il est prêt à les défendre. Il est jusqu'au boutiste. Il est prêt à les défendre jusqu'au bout. Il est constamment assailli par ses amis, ses prétendus amis, et puis c'est vrai que Zola en a tracé le portrait, il a bien pensé, quand il a constitué son annuaire des personnages pour Son Excellence Eugène Rougon, il a bien pensé à cette force assaillie en quelque sorte. Alors ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en fait, ils font d'abord beaucoup d'éloges, évidemment, des éloges outrés, ils sont tout le temps en train d'essayer de le courtiser, et... Zola dit à un moment que Rougon apprécie ce fumier d'éloges.
Alors, il y a une chose assez frappante dans la carrière de Rougon, c'est qu'il tente un coup. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il démissionne en pensant que Napoléon III le reconduira. Et puis, il se retrouve ministre en portefeuille. Donc, c'est là, dans le cours du roman, après, il reviendra, mais il y a une espèce de chute très, très frappante. Et on se demande d'ailleurs... comment un politicien aussi avisé, aussi rusé, aussi fort ait pu tenter ce coup-là ? Parce qu'il doit quand même bien avoir l'expérience que les démissions, ça marche rarement.
C'est la vanité de la force, c'est une sorte de délire de puissance, de complexe de supériorité. On en vient effectivement à croit pouvoir faire pression sur Napoléon III. On voit même d'ailleurs des conversations entre les deux personnages. En vérité, Napoléon III a lui-même été entouré de personnalités assez fortes, avec lesquelles il avait parfois des relations compliquées, et il n'était pas toujours très à l'aise avec ses collaborateurs. Mais en revanche, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, que nous rappellent les historiens, c'est que Napoléon III était généralement fidèle à ses collaborateurs, à ses ministres, à ses complices.
Il faut signaler d'ailleurs qu'il y a une très scène excessivement réussie dans le roman, qui est ce qu'on appelait un Compiègne, où Napoléon III et Eugénie accueillent leurs courtisans, des ministres, etc. à Compiègne, et c'est une scène très 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 frappante.
Oui, il y a des scènes comme ça où Zola excelle, hein, justement, dans la description, dans les tableaux, dans la restitution. Il y a d'ailleurs une scène de chasse à cour, une scène de curée froide, une curée froide au flambeau. Le mot curé réapparaît après le titre du deuxième roman La curée. Et donc, on a cette réception à Compiègne, ce faste, ce luxe.
Nous allons maintenant entendre une chanson que tous les Français ont entendue pendant les 18 ans du Second Empire, puisque c'était l'hymne national. Il s'agit de « Partons pour la Syrie », dont les paroles passent pour avoir été écrites par la reine Hortense, la mère de Napoléon III. François-Marie Mourat, pour continuer sur le personnage d'Eugène Rougon du roman de Zola, dont nous parlons depuis tout à l'heure, il y a l'autre personnage essentiel du roman et qui est un admirable personnage de femme, qui est Clorinde. Clorinde, c'est la fille d'une Italienne exilée sur laquelle les bruits les plus divers circulent. On ne sait pas bien si cette comtesse Balbi est authentiquement comtesse, espionne ou aventurière. Et en tout cas, sa fille prend une importance très considérable dans le livre.
Que peut-être Zola a voulu... Il s'est dit qu'il ne pouvait peut-être pas se contenter d'une sorte de personnage comme ça, écrasant, de cette représentation de la force, de la toute-puissance. Et il a cherché à compenser peut-être, à créer un contrepoint, un puissant contrepoint. Et il a imaginé une créature féminine qui va être caractérisée systématiquement par la beauté. Mais c'est une beauté froide. C'est un peu la beauté du poème de Baudelaire, du début des Fleurs du Mal, comme un rêve de pierre. Elle est souvent comparée à un buste.
Elle est froide, mais en même temps, il y a une espèce d'exaltation. Alors, elle est comparée avec un portefeuille sous la main.
Elle est souvent décrite à moitié nue ou carrément nue, souvent attifée de vêtements extravagants, comme vous pouvez d'ailleurs en trouver dans ce monde sous le Second Empire. Mais elle est, c'est vrai, bon, on dirait aujourd'hui une allumeuse. Elle a une vie érotique, une puissance érotique, mais il n'est pas dit qu'elle ne pense pas avant tout. Elle pense avant tout au pouvoir.
Bien
elle
sûr.
Pense avant tout à accéder au pouvoir.
Et d'ailleurs, c'est une intrigante en réalité.
C'est une intrigante.
Rougon, qui lui a fait épouser un des minables de sa petite cour qui s'appelle de Lestang, au moment de ça, pour expliquer à tous ceux qui n'auraient pas lu le roman, au moment de sa disgrâce, voilà ce de Lestang qui devient ministre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, de Lestang a été poussé par Clorinde et que Rougon, de son côté, c'est un chaste. Et que donc, on a l'impression qu'il n'a pas la conception qu'une femme puisse être autre chose qu'un homme, en quelque sorte, qu'elle peut être aussi menée par la force.
C'est ça, elle incarne cette autre puissance de la femme. C'est-à-dire que Zola, quand même, dans son dossier préparatoire, a bien conçu le contrepoint de la puissance féminine, en quelque sorte. Là, c'est quasiment mythologique, hein, la force virile, mais en même temps d'un chaste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne pense pas évidemment à qu'on va marier, mais qui quand même à un moment donné s'est demandé s'il pouvait pas épouser Clorinde, c'est-à-dire qu'en fait elle réveille chez lui le désir érotique, et il y a évidemment quelques scènes assez saisissantes, notamment une scène où elle a réussi à le mettre dans tous ses états, il se jette sur elle et elle est habillée en Amazone, il se retrouve au fond d'une écurie, et elle, elle le flagelle avec une cravache. Donc là, une scène assez, assez intense entre les deux personnages.
Alors, mais qui ne va pas jusqu'à la consommation.
Qui ne va pas parce qu'elle refuse, en fait. Elle se refuse à lui. C'est d'ailleurs sans doute peut-être le seul auquel elle se sera refusée, effectivement. Ensuite, il va la marier avec ce fameux délestant qui est un médiocre type, qui effectivement sera, grâce au pouvoir de Clorinde, de son épouse et au conseil qu'elle lui donne, sera ministre à la place de Rougon, ministre de l'Intérieur.
Alors, ce qui est intéressant avec Rougon, c'est que comme tous les tyrans et leurs employés, un de ses moyens de diversion est la moralité, parce que en parole et dans ses discours, il est très moral, Rougon. Il s'en prend en particulier à un directeur de journal dont le feuilleton montre une femme qui trompe son mari, c'est-à-dire qu'on peut voler les emprisonner les opposants, on peut voler le pays, mais la fidélité conjugale doit être respectée.
Le pouvoir des journaux, le pouvoir de la littérature sont présents dans ce roman et il y a effectivement une censure. Rougon est très attentif à cette liberté que peuvent s'octroyer les journalistes et les écrivains. Là, le roman dont il est question, c'est sans doute Madame Bovary. Une femme adultère, c'est insupportable. En général, ces gens ne lisent absolument pas les romans. Ils sont d'une violence extrême, ils sont redoutables, ils mettent en œuvre la répression, mais à côté de ça, les apparences doivent être gardées c'est ce qui spécifie un peu aussi cette société bourgeoise, une forme de puritanisme.
D'ailleurs, et c'est un moment où on voit Émile Zola lui-même passait le bout du nez dans son livre, probablement, c'est que Rougon est aussi un homme qui déteste les livres. Et j'ai l'impression que Zola parle un peu de lui-même dans un passage où il montre Rougon qui s'emporte contre, vous disiez Flaubert, mais on a l'impression que c'est quand même lui, Rougon s'emporte contre un roman d'imagination qu'il juge d'une imagination dépravée, je cite, avec les débordements d'une femme hystérique, ce mot d'hystérie parut lui plaire, car il le répéta trois fois, il alla jusqu'à prononcer le mot pornographie. On a un peu l'impression de son roman critiqué par le personnage lui-même.
Oui, je pense qu'effectivement, il met là en abîme la littérature naturaliste, les romans réalistes et naturalistes qui commencent à être beaucoup plus présents, qui se développent, cette littérature moderne, cette littérature aussi subversive finalement, et qui va contre l'idéalisme ambiant, le spiritualisme, qui incarne la modernité, et effectivement, on peut supposer que, comme il le fait dans d'autres romans d'ailleurs, pas une scène similaire chez Nana. Des personnages qui sont absolument répugnants d'un certain côté et qui, en revanche, discréditent, critiquent cette littérature nouvelle.
Alors, vous l'avez dit plusieurs fois au début de cette émission, le mot de ce qu'il est, lui, Rougon, c'est un mot qui revient d'ailleurs très souvent dans sa bouche et dans celui d'autres personnages, c'est le mot force. Il aime la force, il l'utilise avec parcimonie parfois, mais toujours à bon escient, parfois par surprise et parfois avec brutalité. Et le mot se trouve d'ailleurs à la dernière phrase du roman, quand Clorinde lui dit avec admiration « Vous êtes tout de même d'une jolie force, vous ».
C'est ça. À plusieurs reprises, dès le début, ça revient comme une antienne. Le personnage est censé incarner la force. « Je suis une force », dit-il le plus souvent. Et on a des expressions parfois un peu étonnantes, du genre « il était coquet de sa force ». Et c'est presque d'ailleurs une esthétique de la force, enfin une sorte de respect malgré tout pour cette force. Cette fameuse Clorinde qui a cherché à miner par tous les moyens le grand ministre finit par lui reconnaître effectivement, après sa prestation au Conseil législatif, une belle force. Et il y a là une sorte d'hommage qui témoigne de la, quelque part aussi, de la fascination que cette force peut exercer sur Zola.
Car il faut dire qu'à la toute fin, il a réussi à retourner sa disgrâce et à revenir au pouvoir, en changeant d'ailleurs à peu près complètement d'idéologie. Enfin, pas d'idéologie, mais de politique.
Il vient justifier le virage libéral, en quelque sorte, après avoir incarné l'empire autoritaire. Cette force, d'ailleurs, il est probable, comme dit le biographe Paul Alexis, le biographe de Zola, le premier biographe, que cette force est aussi celle de l'écrivain. Cette fascination de la force qu'on retrouve dans plusieurs romans, qui semble indiquer que Zola lui-même était fasciné par cette, cette force, qu'il la sentait en lui. Alors quand on a proposé plusieurs clés du personnage d'Eugène Rougon, Paul Alexis a signalé que finalement c'était peut-être avant tout l'écrivain qui se représentait de manière tout à fait indirecte, évidemment, à travers cette exaltation de la force.
Enfin, à la différence près que Zola a des finesses, des subtilités, des délicatesses que, évidemment,
c'est un personnage qu'il est question. Ce personnage, il est doté de contrepoints. Mais quoi qu'il en soit, il y a une véritable fascination de la force chez Zola. Et cette... peut-être aussi une évolution possible de cette force confrontée à d'autres forces comme celle de la femme, celle de l'amour, etc.
Eugène Rougon est une incarnation de l'ambition. Au fond, il a très peu d'idéologie, il n'a pas de famille à protéger, il n'a pas d'autre but, en somme, que de dominer. Et ce que Zola semble montrer dans ce livre, c'est que non seulement, évidemment, l'ambition est vorace, mais que surtout, elle est lente. Il prend son temps.
C'est ça, il prend son temps à la fois parce que ça envoie des stratégies, évidemment, de l'ambition, mais des stratégies politiques, il faut toujours avoir un coup d'avance. Mais également, il prend son temps parce qu'il en jouit. C'est-à-dire que cette complaisance, comme il est chaste par ailleurs, cette exaltation de la force se fait dans le long temps et il faut en profiter, si je puis dire. C'est pas une énergie qui... Il a une telle énergie qu'elle ne s'épuise pas par crise, par à-coup. Elle est vraiment une nature profonde dont il cherche à la prolonger le plus possible. D'ailleurs, la réapparition comme ça, cyclique du personnage, ce rythme de l'ascension et de la disgrâce, n'altère pas cette impression de force. Et c'est justement par cette force... qu'il réussit, cette force naturelle. Il ne faut pas oublier que les Rougon-Macquart ont pour sous-titre « Histoire naturelle et sociale d'une famille, le Second Empire ». Donc lui incarnant la force et l'histoire naturelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui le constitue et qui ne renvoie pas à quelque calcul que ce soit, quelque stratégie, mais c'est vraiment une sorte d'instinct.
François-Marie Mourad, que vous a appris le personnage de Jeanne Rougon ?
Ben, le personnage de Eugène Rougon nous apprend qu'effectivement il y a des animaux politiques. Il y a des animaux politiques. La mémoire de Jacques Chirac a été évoquée, on a parlé de fauve, d'animal politique. Donc ça n'a pas pris une ride. Au fond, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que la politique, c'est aussi des tempéraments parfois monstrueux, démesurés, une hubris. Et ce que l'on constate, c'est que effectivement, un homme concret comme Eugène Rougon peut devenir, la théorie de l'homme concret peut donner naissance à un personnage naturaliste, tout aussi fascinant que l'homme abstrait, par exemple, ou l'homme métaphysique, comme Zola, qu'on trouve à des époques antérieures. C'est-à-dire que ce personnage qui est décrit de manière à la fois, directe et subtile, hante nos imaginations, tout comme des personnages de la tradition du roman psychologique, par exemple.
Comme si j'étais assis là-haut paradis.
C'était Personnage en personne, le 94e. Réalisation Clotilde Pivin. Attaché de production Meryl Moneghetti. Prise de son Philippe Mercher.
À qui c'était un grand jeudi.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le Rayon BD.
Côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers.